L'actualité des Alpes du Sud avec un hommage qui sera rendu à Gabriel Miloche lors des Piolets d'Or.
La cérémonie se tiendra à la fin du mois de novembre à Briançon. Le corps de cet alpiniste de 27 ans a été retrouvé dans une coulée de neige hier dans l'Everest. Il était porté disparu depuis la fin octobre.
Arnaud Murgia, chahuté par les solidaires.
Alors que le maire de Briançon vantait sur les réseaux sociaux les fortifications Vauban, tous migrants, y a déployé des banderoles hier où était inscrit Murgia patrimoine de l'inhumanité. La ville subit de plein fouet une nouvelle crise migratoire.
Et les archives départementales des Hautes-Alpes seraient-elles en danger?
Un collectif d'une vingtaine de personnes, des spécialistes, le craint alors que le bâtiment qui les abrite est en pleine réhabilitation à Gap, pas adapté selon ce collectif.
Et puis des petites maisons fleurissent dans les prairies basalpines.
6 mètres de long, 2 mètres 50 de large, ce sont les tiny house. Le concept est américain, il s'est implanté en France et dans les Alpes d'Haute-Provence depuis peu. Ce sont des petites maisons de 19 mètres carrés, totalement équipées et surtout mobiles. Ou comment ne pas emporter sa maison dans sa valise, mais plutôt sa maison tout court, en voyage. Météo, encore ensoleillé, mais toujours venté.
Oui, soleil généreux sur les Alpes du Sud, avec toujours quelques petites grisailles dans les fonds de vallée du Dévolu du Champsaur, qui devraient se dissiper vers la mi-journée. Et puis, il y aura quelques petits nuages qui risquent d'arriver cet après-midi, mais l'impression de beau temps persiste. Côté température, ça s'échelonne pour les maxis de 12 à 18 degrés. Le corps de Gabriel Miloche a donc bien été retrouvé dans l'Himalaya.
Le Briançonnais de 27 ans a été porté disparu depuis la fin octobre avec deux autres alpinistes français alors qu'ils avaient tenté l'ascension d'un sommet de plus de 6000 mètres d'altitude dans l'Everest. Une avalanche les a emportés. Trois corps ont été retrouvés hier par les secouristes locaux. Christophe Laurenceau.
L'un des corps retrouvés ce lundi par les autorités népalaises est donc bien celui de Gabriel Miloche. Cet alpiniste aguerri a disparu le 26 octobre dans l'Everest avec Louis Pachou et Thomas Harfi, deux autres Français membres du GEAN, le groupe d'excellence alpinisme national. Ils menaient l'ascension de Mingbo Eiger, un sommet vierge de plus de 6000 mètres d'altitude au Népal. Nicolas Reynaud, président de la FFCAM, expliquait la semaine dernière sur Alpe 1 les difficultés d'une telle ascension.
Non seulement le sommet est vierge, mais la face aussi, ça veut dire qu'aucun être humain n'y a posé ses pieds et ses mains. Il n'y a pas de retour. Néanmoins, tout le travail de préparation, il est fait et il est bien fait. Et surtout, dans la décision, c'est important d'avoir un filtre d'analyse qui permet de savoir si on continue à progresser ou si on ne continue pas. D'ailleurs, ils avaient pris la décision d'arrêter leur progression puisqu'ils se sont arrêtés sous le sommet. Ils ne sont pas allés jusqu'au sommet parce que vraisemblablement, ils avaient dû avoir des signaux qui n'allaient pas dans le bon sens. Et donc, quand on va faire des ascensions vierges comme ça, bien sûr que si des gens les avaient fait avant eux, c'était plus simple pour avoir des infos. Mais enfin, après, vous savez, en particulier en Himalaya, sur ces sommets d'envergure, les conditions changent très souvent. Donc, c'est pas parce que une année, une expédition va avoir des conditions plutôt bonne ou plutôt mauvaise, et que l'autre année, les conditions vont être les mêmes pour l'expédition d'après.
Selon les premières recherches menées la semaine dernière, le groupe aurait en effet à renoncer à aller jusqu'au sommet, aurait fait demi-tour à 5900 mètres d'altitude en empruntant l'itinéraire de montée. Les trois alpinistes ont été surpris par une avalanche dans une goulotte, des sacs et du matériel de bivouac avaient été retrouvés. Alors qu'une équipe de 14 secouristes français, dont un militaire du PGHM de Briançon, ont pris le départ du Népal vendredi pour épauler les recherches, trois corps ont été découverts par des guides de montagne locaux ce lundi. Ils ont été retrouvés à peu près dans la même zone où étaient conduites les recherches. La police népalaise a confirmé dans la matinée qu'il s'agissait bien des trois jeunes alpinistes. Une équipe de secours professionnels a transporté à Lukla, au sud-est du Népal, les corps.
Merci Christophe. Le maire de Briançon, d'où était originaire Gabriel Miloche, Arnaud Murgia, a annoncé hier que la ville fortifiée rendrait hommage à ses trois victimes le 28 novembre prochain à l'occasion de la cérémonie des Piolets d'Or. Arnaud Murgia qui se voit chahuté, alors que la cité Vauban subit un nouvel épisode migratoire avec des exilés accueillis au sein de l'église Sainte-Catherine. Le maire a voulu mettre en avant les atouts de sa ville sur les réseaux sociaux en vantant les fortifications inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Un message qui est mal passé auprès des associations au vu du contexte. Des banderoles ont été déployées hier matin sur les remparts où l'on pouvait y lire « Murgia, patrimoine de l'inhumanité, dans ta ville, plus de 100 personnes dorment dehors ». l'édile n'a pas attendu pour y répondre, affirmant vouloir continuer à faire appliquer les lois de la République et défendre ses convictions. Il a reçu le soutien du président de la Fédération des Républicains dans les Hautes-Alpes, Kevin Parra, qui s'est dit consterné et a renouvelé sa confiance en Arnaud Murgia pour gérer les problématiques, notamment celles liées au flux migratoire, des problématiques qui ne sont pas une compétence communale, comme il le rappelle, mais une compétence de l'État.
Chaque hiver, en région PACA, entre 200 et 250 personnes sont intoxiquées au monoxyde de carbone.
Manque d'entretien, des chauffages ou des conduits d'évacuation, mauvaise utilisation ou mauvaise aération. L'ARS alerte alors que la période de chauffe commence. 53 épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone sont survenus l'an dernier sur la région, impliquant 196 victimes, 2 ont perdu la vie. L'Agence régionale de santé rappelle que ce gaz toxique est inodore, incolore et indétectable par l'homme. Plusieurs symptômes doivent alerter: maux de tête, fatigue, confusion mentale, mais aussi nausée. En cas d'intoxication ou de soupçon, il est recommandé d'aérer les locaux, d'arrêter les appareils à combustion, d'évacuer et bien sûr d'appeler les secours.
Sur vos routes, attention à cette coupure de circulation depuis cette nuit.
La Dirmed doit inspecter le pont Saint-Joseph à Nottes. La circulation est donc totalement interrompue sur la Nationale 202 entre Rouen et les Scaffarelles les nuits donc de ce lundi et de ce mardi de 21h à 5h du matin. Des déviations sont mises en place pour les automobilistes circulant en direction de Nice. Il faut emprunter les départementales 955 et 908 via Saint-André-les-Alpes. Et pour ceux circulant en direction de Digne, la déviation se fait par Entrevaux. Pour les camions de plus de 12 tonnes, des zones de stockage sont mises en place de part et d'autre du chantier. Sinon, un itinéraire alternatif est possible par les autoroutes A51 et A8.
Les archives départementales des Hautes-Alpes seraient-elles en danger ?
Un collectif d'une vingtaine de personnes réunissant des historiens, des généalogistes, des professeurs ou encore des guides conférenciers s'en inquiète. En effet, le bâtiment à Gap doit être réhabilité l'année prochaine. Durant la durée des travaux, soit plus de 16 mois, les archives seront dispersées sur plusieurs sites à Saint-Louis à Gap, à Grenoble, à la Bâtie-Neuve, dans un bâtiment qui est en cours de rénovation. Mais des documents resteront également sur le site actuel durant sa réhabilitation. Et c'est là que sont les peurs du collectif, car cela lui semble peu adapté pour la conservation. Il souhaite donc qu'un nouveau bâtiment soit créé, comme cela était en projet en 2015, et demande donc au département de revoir sa copie. Pierre Faure.
L'ancienne solution qui avait été préconisée il y a 5 ans de construire un bâtiment neuf à Saint-Louis a été abandonnée et nous allons un projet donc de réhabiliter un bâtiment ancien pour un coût de réhabilitation évalué à 11 300 000, mais il n'est absolument pas intégré dedans tous les frais de fonctionnement qui en résultent parce que les archives vont être dispersées entre Grenoble, Saint-Louis, la Bâtie-Neuve et autres. Une partie va rester ici avec des risques de conservation. Conserver 6 km d'archives dans un bâtiment qui va être l'objet de construction, de travaux importants, on trouve qu'il y a un danger qui existe. Et nous avons sollicité le département, les conseillers départementaux, pour qu'ils puissent revoir complètement l'ensemble du dossier et prendre une décision en connaissance de cause.
Contacté par notre rédaction, Jérôme Chollier, directeur général des services du département, indique que le coût global est loin d'être équivalent puisque la différence entre le projet neuf et le projet actuel est de 3,5 millions. Plusieurs raisons également selon le département pour rénover l'existant. Son emplacement au cœur de la ville de Gap, dans un quartier où il peut rayonner. Quant aux frais de fonctionnement, durant les travaux du fait du transfert des archives sur plusieurs sites, le but était de raccourcir la durée du chantier et diminuer la durée des nuisances.
La parole est donnée aux habitants pour imaginer le Serre-Ponçon de demain.
Une concertation est lancée par les 17 communes de la communauté de communes de Serre-Ponçon. Alors que le gouvernement signera cet automne des contrats de relance et de transition écologique, une démarche de dialogue est mise en place avec la population afin que ce contrat soit le plus pertinent et le plus efficace. Une rencontre publique aura d'ailleurs lieu ce mercredi à la salle des fêtes d'Embrun à 18h30.
Et puis de nouvelles petites maisons dans votre prairie, construites à Saint-Martin-les-Eaux.
Apparues dans le début des années 2000, aux États-Unis, la première tiny house a débarqué en France en 2013 pour devenir progressivement un mode de vie et un mouvement qui s'étend désormais jusqu'aux Alpes d'Haute-Provence avec l'entreprise Plume Habitat, créée en janvier 2020 par Gaëtan Ducarne, ingénieur de formation, avec des dimensions réglementées de 6 mètres de long sur 2,55 mètres de large, afin de pouvoir voyager sur les routes sans devoir déclarer à la préfecture, à l'instar des convois exceptionnels. La Tiny House offre un espace de 19 mètres carrés utilisable, totalement équipé, sur mesure et individualisé pour un coût entre 55 000 et 65 000 euros. La version sans équipement s'élève, elle, à 40 000 euros. Pour Gaëtan Ducarne, il s'agit d'un nouvel habitat mobile et écologique dans l'air du temps.
L'intérêt d'une tiny house, ça va être d'avoir un habitat mobile, un habitat léger et surtout un habitat qui a un impact écologique qui est vraiment réduit au maximum. Donc il y a vraiment un impact sur le sol qui est nul finalement, puisque la tiny repose essentiellement sur quatre roues. C'est-à-dire que le jour où on décide de la sortir du terrain, l'herbe repousse, quoi, contrairement à une maison. Et ensuite, ça va être les impacts énergétiques, puisque l'énergie pour chauffer ou éclairer une telle habitation est vraiment faible au regard des habitations classiques. Et ensuite, ça va être aussi les rejets d'eau usée qui vont être minimisés et qui vont être traités de manière un petit peu plus intelligente, on va dire.
Alors qu'elle n'a pas encore un an, Plume Habitat est une affaire qui roule et même assez vite, car Gaëtan Ducarne va devoir engager une autre personne pour faire face à la demande. Aujourd'hui, 2 tiny houses ont été vendues, l'une est en construction, 2 autres sont au carnet de commandes pour l'année prochaine.
Alpes 1 Sport. Direction la Transat Jacques Vabre, en plein dans la pétole.
La course transatlantique à la conquête de la Martinique se poursuit pour nos 2 skippers haut alpins. À bord de son bateau à foils, Romain Attanasio progresse vers le sud, mais après avoir navigué en seconde position, il est en perte de vitesse avec son co-skipper Sébastien Marseille. Ils sont passés à la 4e position, mais toujours avec le sourire.
Il y a 6 nœuds de vent et on essaye de se déhaler dans la pétole pour se barrer d'ici.
Du café en l'eau pour...
Ah ouais, carrément. Ah merci. Ah c'est gentil.
Alors, elle n'est pas encore en Martinique, mais je vous empêche pas de boire du café.
Allez, faut qu'on arrive à avancer. Hein. Ça va la carto?
Nickel.
Et on a un petit peu de vent, donc ça c'est cool. Voilà le vent qu'on a. Mais bon, vous ne le dites pas aux autres.
Et surtout, ne pas le dire à sa compagne Samantha Davis, qui est juste derrière lui. Quant à Damien Seguin et son co-skipper Benjamin Dutreux, ils naviguent à bord d'un monocoque à dérive et sont 14e, eux aussi victimes de surplace. Alors forcément, ils espéraient hier voir la Martinique plutôt que les côtes bretonnes.
Et Damien, je crois qu'on est arrivé en Martinique.
Arrête là-bas, là-bas.
Ah yes, excellent, tu peux enlever ton bonnet et te mettre en slip.
Une Transat Jacques Vabre à suivre sur Alpe 1.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.